vous avez dit.
On va commencer avec l'aide de Dieu un nouveau chapitre, chapitre 47. Perek Memzain.
Ah, c'est pas proche 47.
Chapitre 47. Dans le chapitre précédent, chapitre 46.
Combien
45.
Pas mal.
Du bon.
On a expliqué une image. On a dit que chacun de nous, avec un peu d'effort, petite réflexion, peut arriver à la conclusion que Dieu l'aime. Comment? Simplement en réfléchissant à quel point, lorsqu'on était en Égypte, on était bon à rien. On devait rien du tout. Enfin, Dieu ne devait rien du tout. Et Dieu est venu, il nous a quand même sauvés. Il avait donné l'exemple, page 47, il avait donné l'exemple, je ne sais pas si vous devez certainement vous rappeler, l'exemple du clochard. Vous vous rappelez le nom du clochard?
Exactement. On se rappelle que lui.
D'accord. On se rappelle qu'il y avait comme ça un clochard qui était là, dans la rue, sent pas bon, sert à rien, il n'y a rien à tirer de lui. Et le roi, en personne, il vient.
Ouais,
il met de côté ses ministres, ses conseillers, ses enfants, il met tout le monde de côté. Et il dit, je vais m'occuper maintenant de ce clochard. Je le fais rentrer dans mon palais, je m'occupe que de lui. Quand on réfléchit, c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a des anges. Des anges, en voici, en voilà. Partout. Dieu aurait pu donner la Torah aux anges. Les anges seraient occupés de la Torah beaucoup mieux que nous. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il prend son cadeau, qui est la Torah. À qui il le donne? Il le donne aux êtres humains. À quels êtres humains? À des juifs qui sont idolâtres. Puisque tout le peuple juif est idolâtre. Alors c'est vrai qu'il va nous faire une formation express, etc. Mais bon, concrètement, on était des clochards. Et Dieu, il nous prend, il nous amène dans son palais. C'est l'équivalent du don de la Torah. Il nous donne la Torah, il nous aime. Quand on réfléchit à ça, même une personne qui est insensible, et même une personne qui se dit, moi je suis athée ou je ne suis quoi, je ne sais quoi, lorsque tu réfléchis un peu à tout ça, à quel point, finalement, avec tout ce qu'on a fait à Dieu, Dieu est toujours là pour nous. Dieu s'occupe toujours de nous et qu'on est toujours là. Qui est là encore aujourd'hui après 3000 ans, 3300 ans?
Nous.
Donc on est là. Donc on comprend qu'en vérité Dieu nous aime. Que c'est pas seulement une histoire de récompense et de punition. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est que Dieu nous aime comme un père aime son fils et peut-être même encore plus que ça. Et donc, le simple fait de réfléchir à ce que je viens de dire, on a expliqué dans le chapitre précédent, ça contribue, ça nous aide à arriver à aimer à Kadosh Baruch Hu et à sentir que Dieu nous aime. Puisqu'on a amené un principe très simple, que lorsque tu te sens aimé par quelqu'un, mais aimé profondément, tu peux pas ne pas l'aimer en retour. Pas possible. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, un français d'ailleurs, un parisien je crois, venu voir le rabbi. Il est allé à l'yeshiva d'Aix-les-Bains. L'yeshiva d'Aix-les-Bains, c'est une yeshiva qui est pas vraiment rabbad. Donc il est allé à l'yeshiva d'Aix-les-Bains. Et il posait des questions comme ça, des questions profondes, ésotériques, etc. Et bon, là-bas, il s'est lui dire, écoute, ici, on étudie la Gemara. Gemara, non, c'est le style de la Yeshiva, c'est très bien. Et lui, il cherchait des questions ésotériques, etc. Alors, à un moment, il y a un enseignant de la Yeshiva qui lui a dit, écoute, ici, on répond pas à des questions comme ça. Tu veux des questions comme ça? Va à Brunois. La Yeshiva de Brunois, là-bas, c'est la Chassidoute, ils sont spécialisés en ces questions. Nous, c'est pas notre domaine, c'est pas notre truc. Alors, c'est ce qu'il fait. Il va à la Yeshiva, il va à la Yeshiva de Brunois. Et là-bas, il commence à poser toutes ses questions et il trouve des réponses, on lui donne des bonnes réponses. Ben, il est impressionné, il reste à l'échelle de Bruno. Vous savez comment c'est? Au bout de quelques semaines, on lui dit, écoute, maintenant, si tu veux avancer, tu veux passer à la question, bonsoir, il faut aller chez le rabbi. Alors il va chez le rabbi. Donc on l'a aidé à payer, financer son voyage pour aller chez le rabbi, etc. Il va chez le rabbi. Il arrive chez le rabbi et c'est quelqu'un de très curieux. D'ailleurs, il est déjà dans le monde de la vérité. Et ce monsieur, il pose plusieurs questions au rabbi. Il pose, si mes souvenirs sont bons, une quinzaine de questions. Dans sa yéchidou, dans son entrevue privée au rabbi. Il pose une quinzaine de questions et une des questions qu'il pose, c'est qu'il dit, comment ça se fait que partout dans toutes les maisons où je vais, je vois votre photo?
Je vois
votre photo. Tout le monde parle le rabbi. Il dit bon, c'est important la chassidoute, mais pourquoi le rabbi? Alors le rabbi lui a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? je les aime tellement les chassidim, tellement je les aime, que de leur côté aussi, ils m'aiment. Ça veut dire que j'ai un amour tellement fort pour eux, maintenant, il dit, d'un autre côté, il dit, moi j'ai pas de moyen de mettre des photos dans la maison. Ouais. Et parce qu'il a dit une grande photo. D'abord, il dit, c'est pas une petite photo, et j'ai pas moyen de mettre une photo. Moi, mais comme le rabbi, il nous aime, c'est pour ça que nous aussi, on peut pas ne pas l'aimer. Et c'est un exemple. C'est un exemple pour nous montrer que lorsque tu aimes quelqu'un, il peut pas ne pas t'aimer.
C'est l'exemple de Dieu.
Exactement. Mais c'est pas que de Dieu. C'est de n'importe qui que si tu aimes quelqu'un profondément, sincèrement, et de façon désintéressée, ouais, il peut pas ne pas t'aimer en retour. Pas possible. Ok, c'est ce qu'on a expliqué en chapitre 46. Maintenant, on va passer au chapitre 47. Et dans le chapitre 47, donc je suis à la page 338.
Mais dans un autre cours, vous avez dit que les Israël, ils observaient la Torah et les mitzvot à Mitzrayim.
Pas du tout. Il y avait une partie, Goshen, ceux qui étaient à Goshen. Minorité, les Lévim. Minorité.
Ah bon.
2%, rien du tout. La majorité était idolâtre, était égyptien, ils comportaient comme des égyptiens. Ils avaient les vêtements des juifs, ils parlaient l'hébreu, mais bon, etc. Mais ils ont gardé les noms juifs, d'accord, NOMS, mais ils étaient idolâtres. Complètement assimilés, complètement. Alors quoi? Dieu a dit quand même, c'est eux que j'ai choisi. Donc on était des cloches, hein, il est venu nous chercher, c'est tout. Maintenant, si vous voulez, on vient de sortir de Pessah. Et pour nous, Pessah, c'est une histoire qui est terminée, bien que Pessah ne se termine pas. Pessah ne se termine pas, c'est un concept qui reste toute l'année. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la Haggadah, il y a une phrase très forte. Dans la Haggadah, il y a une phrase très forte que nous lisons, qui vient de la Gemara, qui dit « Bechol dor vador, chayav adam, lirot et atzmo keilu yatsa,
memitzray ».
Alors je vais traduire cette phrase, et on va la commenter. La phrase dit comme ça. Elle dit « Bechol dor vador, dans chaque génération, un homme a l'obligation de s'imaginer comme s'il était sorti aujourd'hui d'Égypte ». L'Admor HaZaken ici, il va commenter cette phrase de la Gemara. Il va expliquer que c'est pas seulement dans chaque génération. C'est combien de temps dure une génération?
20 ans.
Ça dépend. En général, une génération, ça dure entre 30 et 100 ans. Bon. Et l'Admor HaZaken va expliquer
que... Ça veut dire que tous les 20 ans, il y a une génération nouvelle.
Oui, mais bon, non.
À 20 ans, normalement, t'es censé faire un enfant.
Non, c'est-à-dire comme ça. Il y a ma génération, on parle pas de génération scolaire, on parle de génération.
Oui. 30 ans.
Ah, c'est plus que 30 ans.
Mais 100 ans.
Ah oui, c'est ça. En général, ça tourne entre 30 et 100 ans.
Il y a l'assurance de vie, c'est oui. Pareil.
C'est une génération. Génération, le père, d'accord. Ensuite, t'as l'enfant, ensuite t'as le petit-fils, etc.
Donc, ils sont dans la même génération.
Enfin, c'est pas la question. Ouais, la question, c'est que celui qui lit mal ce texte de la Haggadah, et ce texte donc de la Gemara, il comprend que dans chaque génération, bon, j'ai 120 ans pour le faire, un jour, je dois me sentir comme si je sortais d'Égypte. En vérité, il m'expliquait à l'Admor HaZaken, c'est pas seulement une obligation d'une génération. C'est une obligation quotidienne. Nous avons une obligation quotidienne de sortir d'Égypte. Ça veut dire que vous croyez que vous êtes sorti de Pessah, vous avez repris le Hametz, c'était bon, vous avez pris les pizzas, ou je sais pas ce que vous avez pris, d'accord. Et là, l'Admor HaZaken, il te remet une couche, il dit, attends. C'est pas fini. Kolium. Tous les jours, on sort d'Égypte. Alors évidemment, la phrase est jolie, mais qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Et ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. Un chapitre qui est très court, que je pense qu'on le terminera d'ailleurs en un cours, le chapitre 47. Mais c'est un chapitre d'un autre côté qui est très important, qui nous montre comment sortir d'Égypte aujourd'hui, concrètement. Pas une phrase abstraite, concrètement. On est d'accord? Voilà.
Tu as vu la dernière fois?
Je l'ai pas fait au cours de Tania, non.
Au cours de Tania.
Peut-être j'en ai parlé, mais en tout cas, ce chapitre, on l'a pas fait.
Non.
On a fait le 47 déjà?
Non.
Je crois pas qu'on l'a fait. Alors, Béine, voici. Donc là, on est à la page 339. Bechol, dor, vador, dans chaque génération. Bechol, yom, vayom, et chaque jour. Maskirin, ouvrechol yom vayom, chayav adam lirotat smokilu hu yatsa. Un homme a l'obligation de s'imaginer comme s'il était sorti. Hayom, aujourd'hui, mimitzraim d'Egypte. Ça veut dire quoi? Bien que la Gemara nous parle de bechol dor vador d'une obligation de chaque génération, mais si vous prenez la Gemara, il y a une autre Gemara dans laquelle on dit que ce souvenir de la sortie d'Egypte, c'est une mitzvah de chaque jour, c'est une mitzvah de chaque nuit. Ça veut dire que tout le temps, on a la mitzvah. On a l'obligation de s'imaginer comme si on sortait d'Égypte aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la sortie d'Égypte? Je veux dire, aujourd'hui, voilà, j'ai rien de particulier, j'ai repris le travail, etc. Comment je sors d'Égypte aujourd'hui? Quelle date on est? Le 9 avril aujourd'hui? D'accord.
Ouais.
On est le 9 avril, 24 Nissan, d'accord, 5778, 2018. Comment le 9 avril 2018, je peux sortir d'Égypte? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir d'Égypte?
Trop bonne question.
Non mais ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Ça veut dire que je dois sortir de quelque chose.
Comme les Israéliens sortis à l'époque
sortir de non pas seulement de l'esclavage, mais de l'idolâtrie dans laquelle on était.
Ouais, mais là, aujourd'hui, vous êtes dans l'idolâtrie aujourd'hui?
Non, mais non, c'est une autre idolâtrie. Comme on est sorti d'Égypte la dernière
ouais,
fois.
Très bien.
Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, on leur a dit, pour sortir d'Égypte, ceux que vous, qui vont sortir d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut laisser tomber ce que vous avez fait en Égypte. La première chose à faire, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire égorger l'anneau pascal? C'est aussi le signe de la divinité égyptienne. Donc vous étiez idolâtre en Égypte, vous enlevez l'idolâtrie, vous la mettez comme une forme de mezouza, et donc vous allez pouvoir recevoir la Torah après.
Okay,
pour nous, ça veut dire quoi?
Voilà.
Ça veut dire que si aujourd'hui l'idolâtrie aujourd'hui pour nous c'est l'argent ou le travail avant les commandements de la Kadosh Baruch Hu, peut-être c'est ça, sortir d'Égypte.
Comment tu sors d'Égypte le Shabbat?
Ben, ça veut dire si tu ne faisais pas Shabbat, donc ça veut dire que tu dois mettre la priorité, donc ça veut dire que tu dois faire Shabbat. Une fois que tu as décidé à faire Shabbat, ben, ça veut dire que tu dois rentrer un peu plus dans l'esprit de Shabbat.
Bon, alors on va voir, on va développer, parce que concrètement...
C'est ça, je ne sais pas.
Non, ça veut dire, j'entends, c'est très juste ce que tu dis, mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a une sortie de quelque chose.
Oui.
Ça veut dire que je dois quitter quelque chose.
Ben, le but, c'est de mettre en premier Akadosh Baruch Hu, donc... Et de mettre en deuxième le matériel.
Ok, on va développer, Razaï.
Mais je ne sais pas.
Non, en fait, ce qu'il faut développer, c'est que de la même façon que quand on est en Égypte, tu es emprisonné dans un pays, tu sors de ce pays, tu es libéré. De la même façon, quand on parle de la sortie d'Égypte quotidienne, je dois avoir un emprisonnement et je dois sortir cet emprisonnement. On est d'accord ?
L'emprisonnement, c'est la matérialité.
Alors, on va voir, Razaï.
Bien sûr.
Vehi. On y va. Yetziat nefesh elokit mima asar aguf mishra dechivia. Cela fait référence. Quelle est la libération quotidienne? La libération quotidienne de l'Égypte. Ça fait référence à la libération de l'âme divine, de l'emprisonnement du corps, qui est appelé peau de serpent. Je vais expliquer ce qu'il est en train de dire ici.
Peau de serpent.
Oui. Vous savez, depuis notre naissance, depuis la création du monde, depuis la création de l'homme. L'homme a toujours été composé de deux choses. Une âme divine et une âme animale. Ça, on le voit maintenant depuis le début. Nefesh Elokit, Nefesh Abemit. Les deux sont enchevêtrés l'une avec l'autre. L'âme divine ne peut rien faire sans l'âme animale. L'âme animale ne peut rien faire sans l'âme divine. D'accord? Maintenant, concrètement, soyons honnêtes, qui gère en général ma vie?
L'âme animale.
C'est mon âme animale. C'est elle qui gère mes pulsions, c'est elle qui gère mes envies, c'est elle qui gère ce que je fais, c'est elle qui gère tout ce que je fais. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir, parce que rappelez-vous le cours qu'on a fait au tout début du Tanya, que l'âme animale est en service dès ma création. Alors que l'âme divine, elle est en service seulement à partir de l'âge de la
bar mitzvah.
Et encore, après il faut qu'il nous laisse sur les rails. Donc elle arrive avec 13 ans de retard, et encore il faut qu'il accepte, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc l'âme animale est celle qui est maître à bord. Maintenant, l'âme divine, elle a des envies. L'âme divine, maintenant, elle a envie de faire une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'âme animale qui l'emprisonne de toutes parts, qui lui dit non, tu ne la feras pas ta mitzvah. Elle ne laisse pas faire la mitzvah. Donc en fait, si on réfléchit bien, tout à l'heure on parlait d'emprisonnement. Qui est emprisonné ici?
L'âme.
Qui est emprisonné?
L'âme divine.
Alors, chez un tzaddik, c'est peut-être le contraire. Chez un tzaddik, c'est peut-être son âme animale qui est emprisonnée par son âme divine. C'est très rare. Nous, on n'est pas comme ça. Chez nous autres, qu'est-ce qui se passe? On a une âme divine qui est emprisonnée par l'âme animale. C'est pas qu'elle n'existe plus, elle existe toujours, mais elle est emprisonnée. C'est quoi une personne en prison? Une personne en prison, c'est une personne qui peut pas s'exprimer.
Il a pas de liberté.
Il veut courir, il peut pas courir. Il veut marcher, il peut pas marcher. Enfin, marcher, je veux dire. Il veut marcher où il veut, il peut pas. On lui dit non. Tu marches seulement dans ce qu'on t'a confiné. C'est-à-dire que l'âme animale, elle a dit écoute, voilà, la religion, c'est ça. Si tu fais le Shabbat comme si, tu fais les autres comme si, ça tu fais, ça tu fais pas, et il est emprisonné. On a tous une sorte de prison. On a tous une sorte de prison, un emprisonnement, qui nous limite, qui nous bride. Maintenant, chaque fois, alors cet emprisonnement de seconde, cet emprisonnement, il s'appelle peau de serpent. Pourquoi on appelle ça peau de serpent? D'où est venue la première faute? À cause de qui est venue la première faute?
Serpent.
À cause du serpent. Maintenant, le serpent, lui, il a fauté. Il a fait fauter l'homme. Et le serpent, après, il a perdu ses facultés. Vous savez que le serpent, avant, il parlait, il marchait, etc. Dieu lui a enlevé tout ça. Mais le corps, concrètement, dans le Zohar, notre corps est appelé peau de serpent. Parce que notre corps a exactement les mêmes caractéristiques que le serpent. C'est la même chose. Quel était le rôle du serpent? Qu'est-ce que voulait faire le serpent? Le serpent, il voulait faire fauter Adam et Chava. Chava et Adam. La tentation. C'est exactement le rôle de mon corps. Et encore plus que ça, c'est que mon corps, mon âme animale, m'emprisonne. Maintenant, chaque fois que je réussis à me défaire de l'emprisonnement de mon corps sur mon âme, on peut parler d'une sortie d'Égypte. Ça veut dire, par exemple, ce soir, quelqu'un était peut-être fatigué. Il est rentré de voyage, ou il avait une journée, une reprise qui n'était pas facile, il pleuvait, les embouteillages, la grève, tout ce que vous voulez. Les excuses sont bonnes, et il y en a des bonnes. D'accord? Et il était assis sur son canapé, il était là, il avait déjà enlevé les chaussures. Il était là, bonsoir. Il était là, d'accord, assis sur son canapé chez lui à la maison. Et... Tiens, c'est à toi, mais très bonne. Bien, bien. Il était là, et à un moment, il y a un rappel qui sonne dans son portable. Ce rappel, il lui dit, non, ce rappel, il lui dit, il faut aller au cours de Tania. Alors, qu'est-ce que dit le corps? Le corps, il dit, écoute, c'est pas grave, il n'y a pas eu cours la semaine dernière, la semaine d'avant, tu ne viendras pas cette semaine, tu viendras la semaine d'après, etc. Ça, c'est le corps. Le corps, il t'emprisonne. Le corps, il t'emprisonne. Le corps, il te dit, écoute, laisse tomber, te prends pas la tête. Mais vous avez fait un effort, vous êtes venu. Si vous avez fait un effort, vous êtes venu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dit à ton corps, tu as dit, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Et c'est l'âme divine, elle veut aller au cours, elle est venue au cours. Ce qui vient de se passer, c'est une micro sortie d'Égypte. Et ça, les sorties d'Égypte comme ça, on en a plein tous les jours. Alors je peux donner plein d'exemples. Je peux vous donner aussi un exemple avec, j'avais un lashon hara bien juteux qui se présentait à moi. Et il était là, il était propre et tout, c'est propre, d'accord? Il était là, c'était clean et tout. J'allais le faire, et là, mon âme divine me dit, hé, arrête-toi, c'est assourd. Mais qu'est-ce qu'il veut le corps? Le corps dit, attends, ils sont tous en train de t'écouter, tu vas pas t'arrêter net. Ça, c'est, tu vois, ils sont tous en train de t'écouter. T'as 20 personnes en train de t'écouter, raconte-le ton lashon hara. Et là, l'âme divine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, non, je veux pas dire lashon hara. Alors si t'écoutes ton corps, eh ben, ça veut dire que t'as été emprisonné par ton corps, ton âme divine n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire. Si tu as réussi à ne pas écouter ton âme animale, et donc à te retenir, à ne pas dire ce qu'il fallait pas dire, tu viens d'avoir une sortie d'Égypte. Encore une fois, des exemples comme ça, on en a tous les jours. Il sort dehors, il regarde pas ce qu'il ne doit pas regarder, il entend pas ce qu'il doit pas entendre, il dit pas ce qu'il ne doit pas dire, les exemples sont multiples toute la journée. Donc avec ça, on comprend pourquoi. On dit dans la Haggadah que chaque génération et chaque jour, un homme doit s'imaginer comme s'il sortait d'Égypte aujourd'hui. Parce que des micro-sorties d'Égypte, des micro-sorties d'emprisonnement, on en vit tous les jours. Donc faut pas croire que la sortie d'Égypte, c'est un concept qui s'est passé. Bon, c'est fini, on a passé Pessah, ça y est, c'est fini. On a fait la Neila, la Mimouna, tout terminé, c'est fini, on a classé l'affaire. Non. Le concept de la sortie d'Égypte, alors c'est vrai qu'à Pessah, c'est plus grand, le message est beaucoup plus fort. Mais le concept de la sortie d'Égypte, c'est un concept qui continue tout le temps. On va aller un peu plus dans les mots.
C'est pas là où il dit Bechol Dor Vador dans la Haggadah?
Bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr. Bechol Dor Vador. Seulement, dans la Haggadah, l'erreur que font les gens, c'est que lorsqu'ils lisent la Haggadah, ils pensent que dans la Haggadah, on parle une fois par an de se rappeler sortie d'Égypte. Non, une fois par an. Une fois par an, pourquoi pas, ça ne coûte rien. Mais en vérité, c'est faux. C'est pas une fois par an. C'est pas que le soir du Seder. Tous les jours, tous les jours. Vous savez, c'est tellement important de se souvenir de la sortie d'Égypte, au point qu'à la base, le schéma n'avait que deux sections. Le schéma et Ve'ayahim Shemoa. Et les Chachamim ont tellement voulu parler de la sortie d'Égypte qu'ils ont rajouté le Vayomer. Pourquoi ils ont rajouté le Vayomer? Pas pour les titites. Ils ont rajouté le Vayomer principalement, comme dit la Gemara, pour mentionner la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'ils l'ont rajouté. Ils l'ont rajouté pour ça. pour vous imaginer à quel point c'est tellement important de rappeler la sortie d'Égypte. Pas pour rappeler, pas pour faire un cours d'histoire, pour dire d'où, voilà d'où on vient. Non, beaucoup plus que ça. C'est pour nous dire que le concept de la sortie d'Égypte est un concept qui peut s'appliquer dans toute ta vie. T'as un truc qui t'a tapé sur le système, t'allais t'énerver, tu ne t'es pas énervé, tu viens de sortir d'Égypte. T'as un phénomène qui t'a emprisonné, t'es sorti de cet emprisonnement, tu ne t'es pas énervé, t'as montré qui était le patron, tu viens de sortir d'Égypte.
Alors ça y est, je suis sorti. Là.
Oui, mais toutes les journées, on a plein de problèmes qui arrivent comme ça. Et c'est tout le temps des micros sorties d'Égypte. Et Dieu fait exprès.
Pourquoi on parle, comme il dit, la sortie d'Égypte, ça y est, c'est passé. Pourquoi on ne parle pas justement de cette actualisation en disant c'est très bien d'être sorti d'Égypte il y a tellement longtemps? Mais en réalité, votre travail, c'est de sortir tous les jours, à chaque moment. Pourquoi on ne parle pas de ça alors?
Très bonne question. Parce que le message principal de la sortie d'Égypte, qu'on verra plus tard, Mitzrayim, non, avant d'on l'attend encore. Mitzrayim, l'Égypte, ça vient du mot Metzarim, les barrières, les frontières. Ça veut dire que des fois, hein, une personne peut être emprisonnée. Qu'est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui est en prison? Il ne peut rien faire. Quelqu'un qui est en prison, est-ce qu'il peut sortir de prison? Il ne peut pas sortir de prison. Comment tu veux que je sorte de prison? Si Dieu, tu me fais sortir de prison, je sors de prison.
Il faut aller à l'extérieur.
Il me faut aller à l'extérieur, on est d'accord. Donc, s'il n'y avait pas le concept de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, écoute, maintenant je suis emprisonné par mon corps, peut-être dans un prochain Gilgoul, je serai un tzaddik, j'en sais rien, maintenant je ne le suis pas, je suis emprisonné par mon corps, c'est comme ça, c'est le cours de ma vie. Et c'est pour ça qu'Hachem, il te dit non. La sortie d'Égypte a montré que d'abord, Hachem, je te donne l'aide pour sortir, et que ça n'existe pas qu'un juif soit emprisonné de façon qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça n'existe pas. Un juif, même s'il est emprisonné, notamment par son âme animale qui l'emprisonne, pour reprendre cet exemple, il peut sortir si c'est une question de volonté. Il peut toujours s'en sortir.
Et pourtant, quand on regarde la sortie d'Égypte, on en fait tout un plat.
Oui, parce que là, c'est un concept. Oui, après, d'accord. Le concept est...
Tout le temps, on parle de...
Partout.
Mitzvah, partout, on parle. Et pourtant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire.
Le concept est très fort.
Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que finalement, il y en a très peu par rapport à la population globale qui sont sortis. Donc c'est comme s'il y a eu un vote. Il y a eu...
Non, attendez. Dieu te dit comme ça. Tu veux sortir, je t'aide à sortir. Tu veux pas sortir, reste chez toi. Moi, je peux me battre pour toi.
Non, d'accord.
Tu veux sortir, je t'aide. Tu veux pas sortir, qu'est-ce que je fasse pour toi? On va t'aider à sortir, mais il faut vouloir sortir. C'est ce qui s'est passé avec ce globe. Bon, si vous voulez, on va juste avancer un peu dans les mots. Vous allez voir, il va développer. Donc, ce qu'on essaie de développer dans le chapitre 47, que Bashgacha Pratit, on fait juste après, donc juste après Pessah. On essaie donc, il explique comment retrouver la sortie d'Égypte tous les jours. L'ikalel beyichud or ensof baruchu. Donc, je suis au milieu de la page 339. À l'idée, essai qu'à Torah va mitzvot bichlal. Chaque fois qu'un juif accomplit la Torah et les mitzvot en général, chaque fois, là on est dans un cours de Torah, c'est une mitzvah. Chaque mitzvah que vous faites, c'est une micro sortie d'Égypte. Parce que votre âme, au lieu de s'adonner aux frivolités, aux bêtises de ce monde, elle est venue s'occuper de la spiritualité. Donc c'est une sortie d'Égypte. Mais il y a un moment particulier dans la journée dans lequel on parle de sortie d'Égypte. C'est quoi? Il dit tout de suite. Il dit, ou bifrat, en particulier, bekabalat malchut bikriat shema. Il y a un moment particulier. Bekabalat malchut shamayim bikriat shema. Il y a un moment particulier dans lequel on ressent de façon beaucoup plus forte la notion de la sortie d'Égypte, la notion de la sortie de notre emprisonnement. C'est à quel moment? C'est lorsqu'on accepte la souveraineté divine dans le kriat shema, lorsqu'on lit le shema. Sheba mamshir ou mekabel ou mamshir alav yichudo idbar beferush. Un moment dans lequel on accepte et on attire sur soi la souveraineté d'Hachem. Béomro en disant, Hachem Elokenu, Hachem Echad, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Pourquoi c'est particulièrement dans le schéma. En vérité, théoriquement, dans n'importe quelle mitzvah et dans n'importe quelle étude qu'on fait, on peut ressentir Dieu. On peut ressentir que je sors de mon emprisonnement, je sors du confinement de mon corps et je m'approche de Dieu. Cependant, il y a des parties dans la Torah dans lesquels le Yetzara peut m'endormir. Je vais vous donner un exemple, très simple. Imaginez par exemple quelqu'un qui étudie une page de Gemara. Oublions la prière, oublions le schéma, une page de Gemara. On lui dit alors, t'as fait une page de Gemara, est-ce que t'as kiffé? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Peut-être oui, peut-être pas. Peut-être qu'il va répondre oui. Peut-être c'est D'abord, c'est toujours intéressant. Peut-être qu'il est au niveau, peut-être qu'il n'est pas au niveau. Peut-être que Bémet, c'est intéressant. Il a kiffé. Pourquoi il a kiffé?
Il a compris.
Il a kiffé parce qu'il a rencontré Dieu. Ou est-ce qu'il a kiffé parce qu'il y avait un concept intellectuel qui était sympathique, qui était intéressant. Hein? Ça peut être les deux. D'accord? Je vais vous dire plus que ça. Des fois, une étude de la Torah, c'est pas normal, mais malheureusement, ça peut arriver. Une étude de la Torah, non seulement qu'on peut étudier la Torah sans penser à Dieu une seconde, c'est-à-dire on peut étudier un texte, ouvrir le livre, étudier deux heures, refermer le livre, sans penser à Dieu une seule fois. Et on peut aussi en éprouver un sentiment d'orgueil. T'as vu, moi j'ai compris, lui il a pas compris. Mais attends, tu t'imagines ce que t'es en train de dire? C'est en train de faire une mitzvah d'étudier la Torah, t'as oublié ce que tu fais, t'as oublié pour qui tu fais. Pour toi, c'est comme si t'avais ouvert un Sartre, l'Avdil. Bah oui. Concept. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on étudie la Torah en général, c'est pas sûr que dans chaque étude de la Torah, je sors d'Égypte. Il y a un combat entre l'âme divine et l'âme animale. C'est pas sûr. Parce qu'il y a malheureusement des études dans lesquelles l'âme divine s'exprime et l'âme animale aussi elle s'exprime. Donc, il n'y a pas eu forcément de combat. Mais chacun a reçu sa part. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, si une personne mérite, la Torah est un élixir de vie. Si un homme ne mérite pas, la Torah peut être un poison. L'étude de la Torah. Combien de fois on connaît des gens que l'étude de la Torah, ça leur montait à la tête? Des gens qui étaient simples. Qui étaient simples, qui te parlaient, etc. D'accord? Et tout d'un coup, ils commencent à étudier, tu prends, et ils montent, c'est pas où ils montent. Et ils écrasent les autres. Mais c'est ça que t'as amené la Torah? Des fois, leur famille est choquée. Les amis sont choqués. Ils disent, mais c'est ça la religion?
C'est pas le but. C'est ce que c'est. Ouais, souvent, on voit des gars qui ont fait une teshuva fulgurante.
C'est très bien.
Ils pètent une durite.
Mais c'est pas, non, ça qui pète une durite, c'est une chose. Ouais. Mais le truc, c'est qu'après, il en éprouve un sentiment d'orgueil. Comment c'est possible? C'est pas possible, normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. On est en train de dire que lorsque tu étudies la Torah, et lorsque tu fais les mitzvot en général, c'est pas sûr que chaque étude et que chaque mitzvah représente une sortie de l'emprisonnement de ton âme animale pour t'approcher de Dieu. C'est pas sûr. Ça devrait être comme ça. Normalement, n'importe quel mot de Torah devrait me donner le même sentiment. Mais que dans les faits, c'est pas toujours comme ça. Par contre, il y a un moment dans la journée dans lequel, là, t'as pas le choix. Là, t'es obligé de dire les choses telles quelles. C'est le schéma. Parce que lorsque tu fais le schéma, qu'est-ce que tu dis dans le schéma? Dans le schéma, t'es pas en train d'étudier. T'es pas en train de comprendre. Dans le schéma, t'es en train de dire une chose. T'es en train de dire Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça veut dire j'accepte la souveraineté d'Hachem qui est le seul et l'unique patron. Donc là, tu peux pas dire je suis venu pour étudier un concept. Il n'y a pas de concept. Là, le concept, c'est que tu comprends que toi, tu es rien et qu'Hachem, il décide tout. Donc ça, c'est un moment que même si une personne, pendant la journée, il a étudié la Torah, il est à côté de la plaque, ça, le schéma, s'il comprend la traduction, il peut pas passer à côté de la plaque. Combien d'exemples on a comme ça hein, une fois, hein, je vais raconter une histoire. Une fois, le Rav, Rabbi Menachem Mendel de Orodok, on raconte que lorsqu'il était jeune homme, il n'était pas chassid à la base. Et il a étudié la Torah chez le Magid de Meserich, le grand Magid de Meserich, le Magid de Meserich qui était le successeur du Baal Shem Tov. Et donc il est en train d'étudier. Et une fois, un Shabbat après-midi, Rabbi Menachem Mendel de Orodok, qui est encore un jeune homme, d'accord, il apprend la Gemara Shabbat après-midi. Un Shabbat après-midi, dans la maison d'études, il apprend la Gemara. Il a passé plusieurs heures à apprendre la Gemara d'affilée. Tac, 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 tac. Et à un moment, il se lève pour prendre un peu d'air, parce que bon, il avait étudié plusieurs heures, avec le chapeau un peu comme ça, tu vois, un peu penché, mais de façon un peu... Enfin, j'ai pas mon chapeau ici, mon chapeau il est là-bas. Hein? Un peu cow-boy, exactement, un peu, tu vois. Alors le Magid de Meserich, il appelle, il s'appelait Mendele. Il lui dit, Mendele, combien de tapis de Gemara t'as appris cet après-midi, là? Il dit, ah. Puis j'ai appris 6 tapim. Pas mal, 6 tapim. 6 pages. Enfin non, 6 feuilles. 6 feuilles, ça veut dire 12 pages. Alors le maquis de Miséris, il lui dit comme ça. Il lui dit, mais dis-moi, si au bout de 6 pages, le chapeau, il bouge un peu comme ça, combien de pages il faut apprendre pour que le chapeau, il tombe de la tête? Il a compris le message que l'étude de la Torah, c'est pas possible qu'une étude de la Torah procure un sentiment d'orgueil. Au contraire. L'étude de la Torah, c'est un moment dans lequel je m'approche d'Hachem. Mais, concrètement, on le ressent pas toujours. Par contre, lorsque je fais le schéma, là, c'est ou Dieu ou moi. Et donc, je suis en train de dire, c'est la volonté de Dieu qui prévaut, c'est la volonté de Dieu qui prime, c'est la volonté de Dieu qui passe en priorité. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Kmo shenit ba'er le'el, ki Hachem, ki elokeinu, ou kmo eloke Avraham, lefi shaya batel, venichlal, bi'ichud, or, en tse, je suis en bas de la page 139. Il dit, pourquoi dans le schéma spécifiquement, on te parle d'un combat avec l'âme animale, et si tu réussis ce combat, on parle d'une sortie de l'emprisonnement de l'âme animale? C'est très simple. Comment commence le schéma? Schéma Israël. Écoute Israël. À Hachem, Eloquenu. L'Éternel est
notre
Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Vous remarquez le terme Eloquenu, notre Dieu? Ça veut dire qu'on est en train de s'approprier Dieu. En général, on dit l'Éternel est le Dieu. On parle, l'Éternel est le Dieu.
Ou mon Dieu.
Ou, oui, justement. Mais là, on est en train de dire l'Éternel est notre Dieu. C'est-à-dire qu'on se l'approprie. Si tu te l'appropries, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en train de dire Dieu, il est tout en haut et moi je suis tout en bas. Bon, je t'ai vu de loin, voilà, je t'ai fait coucou, après je reviens à mes affaires, tu reviens à tes affaires. Non. Je suis en train de dire Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la même façon que le premier qui s'est approprié Dieu, c'est qui, vous savez?
Abraham,
exactement. Jusqu'à Abraham, personne n'a dit mon Dieu. Personne. Personne n'a osé. Tout le monde disait Dieu. Personne n'a dit mon Dieu. Le premier qui a osé dire mon Dieu, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il était tellement annihilé, il était tellement soumis à Hachem, qu'on dit, lui, il pouvait dire mon Dieu. Maintenant, imaginez que moi, quand je fais mon schéma, moi, quand, on va faire tout à l'heure, moi, quand je fais ma Amida, qu'est-ce que je dis? Eloquenu. Ça veut dire que je me la joue. Je me la joue qui? Je me la joue Abraham. C'est comme si j'étais Abraham Avinu. Donc là, c'est sérieux, on n'est pas en train de rigoler. C'est pas en train d'écouter, on étudie un concept, pourquoi pas, on parle un sujet, on fait rien. Quand tu dis le schéma, tu es en train de faire une guerre avec ton âme animale. Ton âme animale te dit, le patron, c'est toi. Et la Neshama te dit, non, le patron, c'est Hachem. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, qu'il y a une avéra qui se présente à vous. Une faute qui se présente à vous. Vous savez que Dieu l'a interdit. Je sais très bien que Dieu l'a interdit. Mais moi, j'ai envie de le faire. Donc finalement, il y a une confrontation entre qui et qui ici?
Ouais.
Entre ma volonté et la volonté de Dieu. Si je faute, ça veut dire que j'ai fait passer ma volonté devant la volonté de Dieu. Il n'y a pas où aller. C'est-à-dire, tu peux pas... Si je faute pas, alors que je voulais fauter, ça veut dire que j'ai fait passer la volonté de Dieu avant ma volonté. Tu ne peux pas voir les deux. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie dans lesquels tu dis, écoute, Shema Israël, Hachem, Eloquenu. C'est notre Dieu. C'est-à-dire, c'est lui le patron. C'est pas moi. Moi, je décide rien ici. Et ça, c'est un moment fort. C'est pour ça que le schéma est une phrase tellement importante. Prendre des gens, même des gens très très loin, le schéma Israël, c'est une phrase clé, parce que tout est là. Alors, ça, c'est un moment dans lequel, même un juif qui est loin, quand il dit schéma Israël, il est en train d'accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Rak seulement. Shavraham, Zachalazem, Maasa, Viluchou, Bakodesh, Madrigal et Madrigal. Vous allez me dire, mais attends, là, je tournais la page 340. Je dis, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que ça va nous raconter, là? T'es en train de nous raconter que lorsque je suis en train de faire un schéma le matin ou le soir, je suis au même niveau qu'Abraham, mais je suis pas au même niveau qu'Abraham. Abraham, il a fait un travail monstre, il a travaillé pendant des dizaines, pendant plusieurs décennies pour arriver à ça. Alors quoi, moi j'arrive, je l'ajoute, je dis, notre Dieu, mon Dieu, j'ai accepté. Qui t'a accepté? Qui tu es?
L'héritage.
Exactement, Chazak. Il dit, Abraham, la différence entre Abraham et moi, c'est qu'Abraham, pour arriver à ce niveau-là, de s'approprier Dieu, de dire que c'est mon Dieu, c'est lui qui décide ma vie. Abraham, il a mérité à ça, Zachalazé Bema'asav. Il a mérité à ça, 340, Bema'asav, par ses actes. Abraham, il a travaillé pour ça. Ve'ilu choba kodesh, madrega, les madrega. Abraham, il a eu un cheminement. Vous savez qu'Abraham, il y a trois avis dans le Midrash. Il y a un avis qui dit qu'Abraham a connu Dieu à l'âge de 3 ans. Un avis qui dit qu'Abraham a connu Dieu à l'âge de 20 ans. Et un avis qui dit qu'Abraham a reconnu Dieu à l'âge de 40 ans. Et le commentaire dit qu'il n'y a pas une marloquette. En vérité, c'est une progression. C'est-à-dire qu'à 3 ans, il a commencé à remettre en question. À 20 ans, il commençait à avoir un petit peu clair. Mais il y avait encore des doutes. À 40 ans, il était défini. Vous imaginez? 3 ans à 40 ans? 37 ans avec la tête d'Abraham Avinu. C'est-à-dire que ça lui a fallu 37 ans. 37 ans de travail. Abraham, pour arriver à ce qu'il est arrivé, il a fallu 37 ans. Comme Ashkatouf, comme il est écrit, Vaïssa Abraham, Abraham voyagea, alors Venasoa. On dit qu'Abraham voyagea avançant toujours. Et le commentaire explique que quand on dit qu'Abraham voyagea, c'est pas seulement voyager au sens géographique du terme, c'est un voyage spirituel. C'est-à-dire qu'Abraham est un grand voyageur. Voyager spirituellement, ça prend du temps le voyage est long. Abraham, pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à sa sortie d'Égypte, pour arriver à la sortie de l'emprisonnement de son âme animale sur son âme divine, Abraham a dû faire un grand, grand, grand travail, une progression. Aval anachnu, mais nous, Yerusha ou Matana ilanu, comme a dit David, pour nous, nous qui sommes les enfants d'Abraham, pour nous, c'est un héritage et un cadeau que nous avons. Shenatan lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah. Veil bishbar et sono itbarer, verhormato itbarer. Et Dieu s'est revêtu dans sa Torah. Dieu n'a pas dit, attends, d'abord, fais des pieds et des mains, casse-toi la tête, fais la queue. Une fois que t'arrives, on va te donner la Torah. J'ai jamais dit non. Tu viens, la Torah est disponible pour toi, je l'ai donné déjà. Ça veut dire que ce que Avraham lui a fallu plusieurs années pour arriver à ça, nous, il lui a donné un cadeau. Mais ça ne change pas que le concept est exactement le même. Le concept qu'a obtenu Avraham, à savoir la sortie de l'emprisonnement de son corps pour s'approcher de Dieu, c'est exactement le même concept qu'on vit chaque fois qu'on fait un schéma. C'est tout. Vous savez, au moment fort de l'année, là, qu'est-ce qu'on dit? Au moment le plus fort de l'année, là. Qu'est-ce qu'on fait au moment le plus fort de l'année, là?
Hein?
Au moment le plus, oui, d'accord, non, à la fin. Au moment le plus fort, juste avant le shofar, qu'est-ce qu'on fait?
Shema
Israël. On dit Hashem ou Elohim. C'est vrai, on est d'accord. C'est le moment le plus fort. Le moment le plus fort de toute l'année, c'est ça. Mais en vérité, ce moment-là, tous les jours. Ce moment-là, on lui donne plus d'importance. Le concept est là toute l'année. Shema Israël. L'acceptation de la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, évidemment, deux secondes. En théorie, c'est très beau ce qu'on dit ici. C'est très beau ce qu'on dit, parce que ça veut dire qu'en vérité, tous les jours, on fait une sortie fulgurante de l'Égypte. C'est très beau en théorie. Mais en vérité, ce que tu dis à Admor HaZaken, c'est que ne crois pas que le concept de la sortie d'Égypte est un concept qui est que pour des grands moments. C'est un concept que tu retrouves tous les jours dans ta vie. Ça veut dire qu'on peut passer une fête de Pessah, dans laquelle, Baruch HaShem, on a eu un Pessah Kacher, peut-être même Sameach, joyeux. Baruch HaShem, Pessah Kacher et Sameach, Baruch, tout est bien. Ça, la question, c'est qu'est-ce qui a changé avant et après? Vous savez, comme ils font dans les régimes, avant, après, tu vas avoir une photo. Si je prends une photo de moi avant Pessah,
nous c'est plus 4 kilos. Hein.
Une photo de moi après Pessah, d'accord? Il faut les kilos spirituels.
Hein. 4 kilos, le compte en banque.
Alors le compte en banque, il a baissé. Les kilos, ils ont monté.
Voilà.
Et mon âme,
elle stagne.
C'est-à-dire là, vous voyez, cette semaine, c'est le test. Cette semaine, tu refais une semaine pleine, tu vois, une semaine roll. Tu vas bosser lundi, mardi, mercredi. Et là, tu vas voir de quoi t'auras l'air vendredi. Même vendredi, même aujourd'hui. Est-ce que ce lundi était comme lundi il y a deux semaines? Ou est-ce que dans ce lundi, tu dis, attends, je suis passé par Pessah?
Oui, mais en théorie, si on suit cette démarche, c'est tous les jours de l'année, on doit monter d'un cran.
Bien sûr.
D'un cran, même si c'est un millimètre. En théorie, on dit que le juif, il doit avancer. Ne serait-ce qu'une étude, chaque étude en plus, augmente ton capital mitzvot, ce qui fait que tu avances. Bon, tu peux aussi régresser si tu pars dans l'autre sens. Mais disons que si t'es dans cette démarche de sortir de Pessah à Pessah et de ton Pessah, c'est continuellement tous les jours.
Tous les jours. Seulement, encore une fois, la différence, c'est que
c'est de la théorie.
C'est la théorie, voilà. mais qu'en vérité, des sorties d'Égypte, on en fait tous les jours sans se rendre compte. Chaque fois que je
ne mesure pas, là, on la comprend par l'explication du texte. Mais à la base, comme 90%, je pense, des Juifs, on fait le schéma Israël. Sans mesure, on fait le schéma Israël, on sait que c'est la phrase, parce qu'on sait que, voilà, même quand on meurt, c'est la dernière phrase, etc. Mais on ne mesure pas l'impact. Voilà.
Mais le concept du schéma Israël, on le fait plusieurs fois par jour. Ouais. Chaque fois que je me retiens de faire quelque chose pour Dieu, je viens de faire le concept du schéma Israël. Je viens de montrer que Hachem, c'est toi le patron. Donc j'ai accepté la souveraineté. Donc je suis sorti de l'emprisonnement de mon corps. Ok? On va avancer un peu. Alors, va rezekeilu natan anot atzmo kaviachol. J'accélère un peu la page 341. Kmo shekatuv bezohar hakadosh veikhuli truma. Deli kelomar oti va velelemar utruma et la mishum de khulachat ayensham etem. Là, il fait appel au Zohar. Juste une petite parenthèse. Zohar, il dit comme ça. Il dit que chaque fois qu'il y a le mot li dans la Torah, ça veut dire qu'on s'approprie quelque chose. Par exemple, à un moment, Dieu, il dit veikhu li truma. Ils prendront pour moi un prélèvement. Et le Zohar là-bas, il dit qu'on Dieu aurait pu dire, d'accord, ils prendront un prélèvement. Pourquoi il dit ils prendront un prélèvement pour moi? Alors là-bas, le Zohar explique que si on est un peu hébraïsant et si on fait des jeux de mots, au lieu de lire ils prendront un prélèvement pour moi, ça peut se lire ils me prendront en prélèvement. Ils me prendront. Et là-bas, dit le Zohar quelque chose de très fort. Il dit que lorsque tu fais une mitzvah, tu prends Dieu. Je prends Dieu, je suis en train d'attraper Dieu. D'où la notion que je m'approprie Hachem. Mais ça, c'est un cadeau. Avraham, pour arriver à ce niveau-là, il a bossé des années et des années. Moi, sans faire quoi que ce soit, dès que je fais une mitzvah, je m'approprie Hachem. Mais ça ne change pas, que je suis en train de faire un effort pour monter vers Akadosh Baruch Hu. Avec ça, on va comprendre une autre phrase qu'on a dit dans le Kiddush des fêtes, et qu'on a dit aussi dans le Moussaf des fêtes. Pas que dans le Moussaf d'ailleurs, même dans la prière de Shacharit. Regardez en bas la page 541, vous allez voir la phrase à vous dire quelque chose. Va titen veze shomrim, va titen lanou, Hashem Elokenu, be'ahava. Je vous dis quelque chose cette phrase? Va titen lanou, Hashem Elokenu, be'ahava, mo'adim, le'simcha. D'accord. Bon, mais moi, c'est pas la fin de la phrase qui m'intéresse, c'est le début. Qu'est-ce qu'on dit au début de cette phrase? On dit, va titen lanou, Hashem Elokenu. Hashem, tu nous as donné, par amour, cette fête, etc. Prends pas d'un don, prends dit que tu nous as donné une fête. C'est pas un don. C'est un or qu'il nous a donné. Il a dit, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui te disent, voilà, par exemple, là, on a eu Pessah qui s'est passé. Comment vous voyez Pessah? C'est un cadeau d'Hachem? Ou c'est un effort qu'on lui a donné? Vous voyez la traduction? C'est-à-dire que là, je sais pas si vous vous rendez compte, bon, désolé, je vous le dis après la fête, mais dans la prière qu'on a fait et dans votre kiddush que vous avez fait tout le temps, les soirs du CDR et toutes les fêtes, vous êtes en train de dire merci Hachem pour le cadeau que tu m'as donné.
Et où est ce
marqué?
Il est où le cadeau? Le mot cadeau, il est où?
Bah, titaine.
Tu nous as donné.
Bah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on donne?
Bah, ça peut être cadeau, ça peut être autre chose.
Bah, c'est quoi? Ah non, donner, c'est un cadeau. Va titaine. Matana. Matana en hébreu, c'est quoi, monsieur?
Matana,
monsieur...
c'est cadeau.
Voilà. On est d'accord?
Alors, toi, titaine.
Donc, c'est un cadeau. Où est le cadeau? C'est un ordre. Imaginez un général qui vous donne un ordre, et tu viens le voir, tu lui dis merci du cadeau. Et t'es en train de bosser pour lui. Quel cadeau? Je t'ai pas donné un cadeau, je t'ai donné un ordre. C'est quoi ce délire?
C'est un coup de gourdin.
Seulement maintenant, on comprend le cadeau. C'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est que si tu voulais la jouer en mode, tu dis non, j'ai pas besoin de cadeau, moi je bosse. Ben, si tu veux bosser, c'est comme Abraham Avinu dans ce cas-là. Ouais. Ça veut dire que pour arriver au résultat escompté des fêtes, il faut bosser 37 ans en mode Abraham. C'est pour ça que nous qui voyons que avec le peu d'effort, on a fait un effort, c'est Pessah, mais avec le peu d'effort qu'on a fait, on sent que Baruch HaShem, la fête, on décolle. On te dit, ça, c'est un cadeau d'Hachem, ça. Ça, que tu as pu arriver comme ça avec peu d'efforts, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem qui t'a donné parce que t'es un descendant d'Abraham. Parce que t'es un fils d'Abraham, parce que t'es juif. Et c'est pour ça que dans toutes les prières des fêtes, qu'est-ce qu'on dit? On dit, va titen l'anneau Hachem et le kenou. On dit, Hachem, tu nous as donné. Même le Shabbat. On dit que le Shabbat, il faut faire le Shabbat, il y a un effort. On dit, le Shabbat, c'est un cadeau. Hein? C'est un cadeau. Hachem t'a donné un cadeau. Où est le cadeau? C'est moi qui lui donne un cadeau. C'est moi qui arrête de travailler, non? Dis non. Parce que tu peux arrêter de travailler mais ne pas être dans le Shabbat. La bracha que tu as quand tu arrives à rentrer dans le Shabbat, sans faire vraiment d'efforts, c'est pas comme si on s'est préparé vraiment toute la semaine.
Le cadeau, c'est quoi?
D'accord? Le cadeau, c'est le fait que tu arrives à rentrer dans la mitzvah, à t'accrocher avec Hachem, à attraper Hachem avec ton Shabbat, avec tes fêtes, sans avoir vraiment fait beaucoup un effort de préparation.
Ouais, mais un cadeau, ça, c'est un cadeau. Tu fais pas d'effort. Là, vous me dites, il faut rentrer, il faut faire l'effort, il faut faire Shabbat,
Oui.
Et après, vous dites, c'est un cadeau.
Non, non, mais
un cadeau, c'est quelque chose que je reçois.
C'est l'aspect cadeau.
C'est pas obligé de faire Shabbat en France.
Non, mais monsieur Benita, c'est l'aspect. Monsieur Benita.
On me dit qu'il faut faire un effort.
Je vous donne un exemple, je vais parler du Shabbat. Dans le Shabbat, il y a deux aspects.
Il n'y a pas de déballé.
Non, je vais expliquer. Dans le Shabbat, il y a deux aspects. D'un côté, le Shabbat, c'est écrit, la asot et ta Shabbat. Ça veut dire qu'on doit, veshameru bene Israël. On doit respecter le Shabbat, donc c'est une action. La asot et ta Shabbat, je dois faire le Shabbat. C'est-à-dire, c'est moi qui, d'ailleurs, on dit en français faire Shabbat. Bon, on n'aime pas le verbe faire, mais, c'est moi qui fabrique le Shabbat. C'est moi qui fais mon Shabbat. C'est pas Dieu qui me le donne, c'est moi qui le fais. Et d'un autre côté, les textes nous disent que le Shabbat est un cadeau d'Hachem. D'ailleurs, il y a même un texte qui dit comme ça. Hachem, il dit, Matana tova yeshli bebet genazai. J'ai un bon cadeau dans mes trésors, dans ma chambre de trésors, qui s'appelle Shabbat. Et même les anges se sont plaints. Ils nous disent, pourquoi tu le donnes aux hommes? Il nous l'a donné. C'est un cadeau. Donc, vous voyez ce paradoxe. D'un côté, c'est un travail que je fais. D'un autre côté, tu appelles ça un cadeau. C'est pas la même chose. Tu me donnes cette bouteille en cadeau. Tu me l'as donnée en cadeau. Je travaille pas pour ça.
Tu la bois pas.
D'accord? J'ai payé la bouteille. C'est pas un cadeau. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Ou c'est un cadeau, ou j'ai payé. C'est pas possible les deux. On te dit non. On te dit en fait, ce que tu payes, c'est le petit effort que tu vas fournir. Alors, où est le cadeau? Le cadeau, c'est qu'avec un petit effort, tu vas décoller comme si tu avais fait un grand effort.
Surtout si c'est modélé aussi, tu vas décoller.
Grave. Vatiten, ça c'est le Vatiten. C'est ce qu'il dit ici. Vatiten l'anou Hashem Elokeinu. Vezeh she'omrim vatiten l'anou Hashem Elokeinu be'ahava. Et on dit aussi, dans le Sim Shalom, on dit, je tourne la page, 342. Ki ve'or panecha natata l'anou Hashem Elokeinu. Pareil aussi dans le Sim Shalom. Qu'est-ce que le Sim Shalom? Kiveor panecha, nata, ça vous dit? Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Kiveor panecha, car, par la lumière de ta face, Hachem, nata talanu, tu nous as donné, Hachem, Torah trahim, une Torah de vie, ve'ahavat chesed, l'amour de la bonté. Encore une fois, regardez. Comment on parle de la Torah? on dit à Dieu, tu nous as donné la Torah. On s'approche maintenant de Matan Torah, on est d'accord? On est en train de se préparer du don de la Torah. Matan Torah. Quel don? C'est un ordre. C'est des injonctions, c'est pas un don. Pourquoi t'appelles ça un don? Où est le cadeau? Le cadeau, c'est que, bien qu'on n'était pas méritant, et bien qu'on n'est pas méritant, Hachem dit, tu fais la mitzvah, et l'effet que tu vas obtenir, c'est exactement le même effet qu'Abraham. Ça, c'est la matana, c'est le cadeau.
Quand tu réfléchis, et les autres? Hein? Enrico, il l'a dit.
Comment il l'a dit?
Donner. Dieu te rend marche.
Ah, mais là, c'est plus fort, là. Là, c'est, comment on dirait la phrase? Donner.
Donner.
Non, mais il faut parce que là, en fait, la phrase, elle veut dire que quand tu donnes à Dieu,
Dieu
en,
veut le rendre.
En vérité, c'est pas toi qui donnes à Dieu, c'est Dieu qui t'a donné un cadeau.
Ouais, mais c'est bon, c'est un petit peu.
C'est Dieu qui te donne la chance de pouvoir bosser pour lui.
Exactement.
On devrait le payer pour ça.
Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu.
Mais on devrait payer Dieu pour ça. On devrait payer pour faire des mitzvot.
C'est ça.
Personne n'a accès à ça. C'est quelque chose. Vraiment, pour accéder à la Torah, on aurait dû faire un travail de préparation. Et à la fin, une fois que t'es propre, t'as fait 15 kippours, 30 kippours, là, il dit, bon, maintenant, tu peux ouvrir un peu la Torah. Tu peux écouter le mitzvot.
Tu comprends tout de suite.
Mais non, Hachem dit direct. Direct, tout de suite, tu commences, le petit gosse, tout de suite, il a même pas un an. Hello, Kenou, mon Dieu, c'est mon Dieu. Où c'est ton Dieu? Qu'est-ce que t'as fait pour toi? Je suis juif.
Voilà.
C'est tout. Hello, Kenou, c'est mon Dieu. Et c'est pour ça qu'on comprend, hein, que n'importe quel juif, peu importe son niveau, même un petit gamin de 2 ans qui est en train de faire son schéma, et de la même façon qu'il dit Eloke nous, ça veut dire qu'il dit que Dieu est mon Dieu, que je me l'approprie et que j'obtiens le même effet qu'Abraham Avinu. Et bien ce petit enfant est en train de dire aussi la chose suivante, il est en train de dire, moi aussi je peux me battre avec mon Yetzer Hara. Si mon Yetzer Hara il me propose de faire une bêtise, et de l'autre côté il y a mon Yetzer Tov, mon bon penchant qui me dit, ne faute pas, et bien si je me suis retenu de pas fauter, je viens de sortir d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça Machiach. J'en pense, ma chère, des milliers de fois par jour.
Tu le vis tous les jours avec tes enfants.
Tous les jours.
Toujours, tout est
à longueur de journée. Le Tzahara, il s'arrête pas.
Et après,
chaque fois. Alors maintenant, il y a des grosses sorties d'Égypte. Il y a des fois des grosses tentations. Et t'es battu, t'arrêtes à gagner. Il y a des petites tentations aussi. Et tu t'es gagné aussi. La vie est pleine de ça. Alors il dit, avec ça on comprend. Il dit, Velazé, en monéa, je suis à la page 342, Velazé, et pour cela, en monéa lanou mitvekut an nefesh, beyichudo vorit barer et la ratson. Très fort ce qu'il dit ici. La seule chose qui empêche l'homme de s'attacher à Dieu, c'est la volonté. C'est-à-dire la seule chose qui manque. Par exemple, on va dire, qui veut gagner des millions?
Tout le monde.
Mais qui va gagner des millions?
Pas tout le monde. Un seul va gagner.
Donc, qui veut gagner des millions? Tout le monde veut. La volonté, ils l'ont. Mais la réalisation, ils l'ont pas. Alors, on aurait pu dire la même chose. Qui veut faire des mitzvot? Tout le monde. Qui va faire des mitzvot? Je sais pas. L'Admor HaZaken te dit que c'est faux. Pour les mitzvot, il suffit de vouloir. Ça veut dire que Dieu t'a dit, écoute, j'attends pas que tu fasses un effort, un business plan avec moi, etc., que tu me construises le truc et qu'à la fin, au bout de plusieurs années, tu montes. Pas du tout. Hachem, il est en train de te dire, la seule chose que j'attends de toi, je te demande une seule chose. C'est du ratson, de la volonté. Tout le reste, je te donne un cadeau. Tout le reste, ça décollera. Te préoccupe pas. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui ont fait tchouva. Ils nous racontent comment, lorsqu'ils ont démarré, ils avaient l'impression que ça allait être une montagne. Insurmontable. C'est pas possible. Faire un Shabbat, vous savez comment faire un Shabbat? Surtout dans il y a des corps de métier où c'est presque impossible, c'est très difficile. Et ils disent, mais c'est pas possible. Et ils croient que ça va être très difficile, et au bout de, alors, ben, c'est difficile, parce qu'il y a rien qui est, facile dans ce monde. Mais après, au bout de quelqu'un, tu dis, alors, comment ça va? Il dit, écoute, finalement, c'est beaucoup plus facile que ça, que je pensais.
Exact.
Pourquoi? Comment c'est possible, ça? Comment ça se fait?
C'est vrai, c'est
parce qu'en vérité, Hachem, il t'a donné le cadeau. Hachem, il te dit, je te demande qu'une chose. Une seule chose, je te demande. Je te demande le ratson. La volonté. Une fois que tu as la volonté, tout le reste va suivre. C'est ce qu'il dit ici. Regardez la phrase, au milieu de page 342.
Si tu as la volonté, tu vas accomplir.
Oui, mais j'ai la volonté d'être millionnaire, je ne le suis pas. Ah oui, ça veut dire c'est pas parce que j'ai la volonté que je l'ai.
Il faut la bracha en plus.
Il faut la bracha, il faut tout. Là, on te dit, non, on te dit pour la Torah et la mitzvot, il y a une seule composante. On ne te demande pas qui t'es né, qui était ton père, qui était ton grand-père, qu'est-ce que t'as fait il y a 20 ans, qu'est-ce que t'as fait il y a 10 ans, qu'est-ce que t'as fait hier. On ne te pose pas cette question. La seule question qu'on te pose, c'est est-ce que tu veux ou tu veux pas. Tu veux, tu peux. C'est tout.
Je
suffit d'être connecté.
Il suffit de vouloir. Mais vouloir, faut vouloir.
Il faut se déconnecter, de pas faire le Shabbat pour se connecter.
Ça c'est le cadeau.
C'est la connexion. Là.
Ça c'est le cadeau.
Il faut les deux.
On n'a jamais vu ça dans le monde.
Il faut se déconnecter.
On n'a jamais vu que la seule chose que le seul frein, la seule barrière pour arriver à un résultat, c'est la volonté. Bien sûr que la volonté, ça joue, c'est très important. Mais la volonté n'est pas tout. Il faut du mazal, il faut de la bracha, il faut des efforts. Hachem, il te dit, je veux que de la volonté. C'est ce qu'il dit ici. Chez Imena Adam, Rotse, Klal, Chazé, Shalom, Letov, Kabo, roulez. Si l'homme ne veut pas s'attacher à Dieu, ça n'arrivera pas. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, M. Benita. Vous avez dit oui, mais on est sorti d'Égypte, mais il y a 80% qui sont restés sur le carreau. C'est votre question. D'accord? 80%. Ah oui. Si on dit bon, c'est pas sûr que le calcul est exact, mais bon. Hein? C'est énorme ce qui est resté. Énorme.
Qu'on devrait pas,
c'est énorme. Mais je vais vous dire, Hachem, il te dit, je peux pas vouloir à ta place. Je peux jamais vouloir à ta place. Je peux t'aider, je peux donner un cadeau, ce que tu veux, mais je peux jamais vouloir à ta place. Pourquoi? Parce que si Hachem voulait à notre place, dans ce cas-là, on enlève le libre arbitre. Ouais, alors, t'as enlevé le libre arbitre, t'as tout enlevé. Alors, t'as enlevé la punition, t'as enlevé le salaire, t'as tout enlevé.
Ouais, mais à quoi ça sert alors de nous avoir? Vous mettez le sang sur le linteau de votre porte, etc. Et avec tout ce travail, et seulement 25, il est sorti.
Parce que ceux qui ne sont pas sortis, ceux qui ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas sortir.
Quel affront on lui a fait?
Il voulait pas sortir. Dans ce complet, dans ce qu'on est, on est très bien.
Pourquoi sortir. Il a mis le sang sur la porte?
Non, le sang, c'était uniquement pour la dixième plaie. Mais ceux qui devaient mourir, ils sont déjà morts dans la neuvième plaie, dans la plaie de l'obscurité.
Oui, ils sont morts dans l'obscurité.
Il voulait pas sortir. Hachem, il a donné la condition, il a dit, il faut vouloir sortir. Celui qui veut pas sortir, il restera ici. Maintenant, il a rien à faire ici. Vivant, il a rien à faire ici.
Enfin bon, il n'avait pas à les tuer. Hein. Le premier commandement, il me dit, tu ne tueras point.
C'est le taulier, c'est ce qu'il veut.
Et il les a pas tués, il les a amenés en haut. En bas, il n'arrivait pas à les gérer, il les a pris en haut.
D'après ce que vous dites, il a fait 3 jours de hocher, il a tué tout le monde, il y avait des femmes enceintes, elles ne pouvaient pas sortir.
Qui vous a dit qu'il y avait des femmes?
Ben, c'est forcément, dans une population de 600 000 ou 700 000 trucs, il y a des femmes enceintes, il y a des malades, il y a des vieillards.
Mais qui vous a dit qui est mort, qui n'est pas mort?
Le texte dit que Hachem il a tué les
bon.
Gens en Égypte.
Alors
que,
il a tué les Juifs. Le texte fait comprendre.
Il a tué psychologiquement ou il a tué physiquement?
Non, physiquement.
Joseph.
Il y a deux manières de
Joseph, tuer. Il les a pas tués, ils sont morts.
Ouais, voilà, c'est ça.
On a provoqué leur mort, voilà, on va dire.
Ouais, ils sont morts.
C'est-à-dire qu'il ne les a pas assassinés comme il a tué.
Bon, on va pas faire un rapport avec l'actualité. Alors, Velazé, c'est pour cela, l'Avdil. Velazé, c'est pour cela. En monéa la noumit vekout anefesh bihoudou vorit barech et la haratson. La seule chose qui empêche, c'est-à-dire à partir du moment où Dieu m'a donné un cadeau, Dieu m'a dit je t'ai donné toute option. Je t'ai tout donné clé en main. T'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin d'aller acheter. T'as pas besoin d'essayer, clé en main. Il suffit juste la volonté. Tu veux conduire ou tu veux pas conduire? Imen Adam Kabo. Si l'homme ne veut pas, il veut pas. Aval Miyad Shirotse. Mais dès que l'homme désire, ou Mekabel, ou Mamshir, Alav et le Koto Itbarer, et qu'il accepte, il dit, j'accepte Dieu. Veomer, et qui dit, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et qui dit, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Nigmar, c'est tout. Instantanément, peu importe votre niveau, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe ce que tu as fait il y a 20 ans, peu importe ce que tu as fait il y a 30 ans, peu importe. Dès que tu as la volonté d'approcher d'Hachem, instantanément, Nichlelet Nafsho Beichud Itvarer, ton âme est absorbée dans l'unité de Dieu. Des Ruach a été Ruach Vamshi Ruach, car comme dit le Zohar, l'esprit suscite l'esprit. L'esprit de l'homme suscite l'esprit d'Hachem. Automatiquement. La seule chose qu'Hachem te demande, c'est la volonté. C'est tout. Là, on commence à comprendre quel est le cadeau. Et là, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. Et on voit aussi comment la sortie d'Égypte, c'était un cadeau qu'Hachem nous a fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était en Égypte, est-ce qu'on était prêt à sortir d'Égypte? On n'était pas prêt du tout. On était tellement pas prêt qu'on était tout nu. Hachem, il a dit, écoutez, je vous donne 2 mitzvot, comme ça vous sortez pas tout nu, parce qu'on peut pas sortir comme ça, il faut une petite mitzvah comme ça.
Puisqu'on était au 49ème degré.
Donc on était archi pas prêt, oui.
Ah oui, comme tu veux, tu vas
dans ton...
Finalement, c'est maintenant ou jamais.
Ah ben non, mais on n'était pas prêts à sortir.
Ah, c'est maintenant ou jamais.
Quoi, c'est-à-dire maintenant ou jamais?
Bah, 49e.
Bah oui, ça veut dire c'est très grave, oui. Donc ça veut dire qu'on était très très grave.
Ouais. Ah bah oui.
Et Hachem, il nous fait quand même sortir. Pourquoi il nous fait sortir?
Super prêt.
Hachem, il a dit une seule chose. Il dit, écoutez, Bon, mettez-vous quelque chose sur vous, sortez pas tout nu, sortez avec une petite pizza, la Mila, le sang de la Mila et le sang de l'agneau pascal, d'accord? Mais Hachem, il a dit, je vous demande juste une chose, de vouloir sortir. Celui qui est en prison et qui veut pas sortir, tu peux rien faire pour lui. Ils appellent ça le syndrome de Stockholm. Hein, vous savez, il y a des gens, ils sont en prison.
Combien?
Ils ont une peine. On leur dit, ils vont rester en prison pendant 30 ans. Et après, au bout de 20 ans, 25 ans, on leur fait une remise de peine. Ils sortent. C'est suicide. Ouais. Ou bien ils reviennent en prison.
Bon, c'est le Stockholm.
Non, Stockholm, c'est.
Stockholm, c'est dans le kidnapping.
Oui. C'est-à-dire qu'ils tombent amoureux de.
Kidnappé que de rien. Le syndrome de Stockholm, c'est tu veux le retour à tes kidnappeurs parce que tu vas appeler.
Alors, comment on appelle le syndrome de la prison?
Le syndrome de la prison, je le connais pas.
C'est un syndrome qui existe. Hein. C'est un vrai syndrome. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça que pour eux, ils veulent pas sortir. Ils sont bien dans ce qu'ils sont. Là, je sais, je peux rien pour toi. Je peux pas vouloir à ta place. Je peux t'aider. Je peux te mettre tout devant toi. Je peux te mettre la cuillère dans la bouche. Mais je peux pas vouloir à ta place.
C'est pour ça que peut-être ma chérie a peur de venir.
C'est pour ça que, non, c'est pour ça qu'on a parlé de ça sous l'aide machiar. C'est pour ça que le rabbi, les dernières années, il arrêtait pas de répéter qu'il faut que Bnei Israël répète, we want machiarna. C'est quoi, we want?
Nous voulons.
Nous voulons! Parce que le rabbi dit le seul problème, surtout les dernières années, il dit Mashiach est déjà prêt à venir. C'est pas moi qui le dis, c'est le rabbi qui le dit. Et dans les coulisses, c'est ce qui se passe. Il te dit, c'est fini, le travail est terminé. Ce qu'on devait atteindre en exil, on l'a déjà atteint. Vous imaginez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que ce qu'on devait atteindre, le quota qu'on devait atteindre d'étincelles et de mitzvot, il est déjà atteint. Seulement, Hachem, il dit, maintenant, il faut que vous voulez Mashiach. Si vous êtes bien dans votre galoute, avec vos trucs, vous avez vos repères, il a sa maison, sa voiture, sa parnasse, sa femme, son truc, il est cadré, il dit, oh, je suis bien comme ça, dis Hachem, touche pas, ça marche, touche pas, d'accord? Il me dit, oh, tu veux pas, je vais pas te forcer.
Mais d'un autre côté, c'est le modèle de la vie depuis des années.
on change pas une équipe qui gagne.
Non, mais ça fait des siècles que la voiture, c'était la charrue, les chevaux, les machins.
Bah bien sûr.
La femme, les enfants, la maison, le truc, c'est les terres, les trucs. C'est chaque époque.
Alors tu dis, est-ce que vraiment j'ai envie que ma chère revienne? Ouais, bon, pourquoi pas, comme j'ai envie de gagner au loto.
À l'époque d'Abraham, c'était le même modèle aussi.
Oui, évidemment. Mais est-ce que j'ai envie de, est-ce que j'ai vraiment envie que ça change? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie que ça change? Je dis bon, pourquoi pas, comme gagner au loto, ça serait intéressant, ce serait un challenge.
Ça fait des siècles et des siècles que je joue au loto, et ça fait des siècles et des siècles que je vois rien de gagner.
Vous savez,
il écrit la vie, il écrit la fin de...
Mais la question est comme ça. Est-ce que je veux que ma chère vienne, comme je revendique, comme ils font à la SNCF, ce que je veux, d'accord? Ou est-ce que je voudrais bien que ma chère vienne? Moi, je voudrais bien...
Mais nous, on est que des acteurs. On joue simplement la pièce que lui nous écrit.
Non, c'est ce que...
Si lui nous écrit un point, on fait le point, il nous écrit la virgule,
C'est ce que le rabbi te dit. En fait, le rabbi n'invente pas, il amène ça d'un chida.
On est peut-être pas dans le monde.
Le chida, il dit la chose suivante, il dit qu'il viendra un moment dans lequel il manquera juste une chose, c'est on aura besoin du salaire de l'attente. Le salaire de l'attente. Ça veut dire vouloir ma chère, attendre ma chère. Est-ce qu'on l'attend? C'est exactement ce qu'il te dit ici, le ratson. Est-ce que tu as le ratson?
Mais qui n'a pas la volonté pour ça?
Vous voulez que ma chère vienne?
Bah évidemment.
Pourquoi vous voulez qu'il vienne?
Parce que tout le monde le demande. Bah, tout le monde en a besoin.
Oubliez les autres, vous.
Le problème,
pourquoi vous le voulez? Qu'est-ce qu'il y a changé dans votre vie?
Ouais, il paraît qu'il va amener beaucoup de...
Il paraît.
Il y a 80% des
juifs. Vous voulez?
Il y a 80% des juifs en France qui savent même pas si c'est quoi
le meilleur. Il va nous sortir de la galoute et va...
C'est quoi la galoute?
Ben là on est quoi.
Vous souffrez aujourd'hui ici?
Par rapport à
je parle de vous.
Par rapport à
vous, monsieur Benita,
oui,
vous souffrez?
Oui. Par rapport à ce que je vais connaître, si Mashiach est là, donc là, je vais découvrir qu'effectivement, dans ce monde-là, je suis dans la galoute.
Attendez.
On n'est pas sûr d'être méritant de pouvoir le voir, on peut mourir juste avant.
Enfin, on n'est jamais méritant.
Monsieur Benita, est-ce que vous attendez Mashiach comme un jeune, il attend la PS, David, quel numéro c'est?
PS4.
4, voilà. Est-ce que vous attendez Mashiach comme un jeune, il attend la PS4? Moi, non. Moi, je sais pas si voilà. On attend Mashiach comme t'attends la fin du film. Tu dis, bon, alors, c'est quoi la fin du film? T'es là comme ça, tu dis, alors, c'est quoi la fin du film? Ah, il est pas fini, il est prolongé, il est long, ce film, hein.
On nous dit, quand chaque fois qu'il y a un problème, tout ça, Mashiach, quand il va venir, ça sera résolu, les morts, ils vont ressusciter, tout le monde dit, il est gentil, tout le monde dit, il est beau.
C'est exactement ce que dit le rabbi. Le rabbi, il dit qu'en vérité, ce qu'on doit faire maintenant, pourquoi il faut parler de Mashiach? Parce qu'il faut créer l'envie. Il faut créer l'envie. C'est un travail de communication en vérité. Communication sur soi déjà. Pas sur les autres, sur soi. Communication pour m'intéresser à Mashiach. Donc on devrait appeler Publicis on devrait leur dire maintenant, on veut vendre le Mashiach.
Alors, attendez, vendre... les loups, vous êtes si pas mal en
si maintenant la...
Non, mais c'est vrai, c'est ça ce qui nous manque. On devrait aller chez Publicis, on devrait dire, écoutez, on a un projet à vendre, vendez-nous du rêve, d'accord ?
En plus, c'est un Lévi, hein,
c'est tout ce qui manque, c'est la seule chose qui manque.
Attends.
Rotsé.
Pourquoi on fait, au lieu de faire un cours sur le Tania, pourquoi au lieu d'étudier la Gemara, pourquoi au lieu d'étudier la Mishnah, on ne fait pas un cours sur la volonté ? Et sur la volonté pour faire en sorte que, puisqu'il manque que la volonté.
Parce que le but d'un cours de Tania et d'un cours de Gemara et d'un cours de Halakha, comme tu dis, c'est de comprendre ce que tu devrais vouloir.
Mais je comprends. Mais déjà, il y a une démarche pour venir à un cours de Tania. Oui. Donc, ça veut dire que tout le monde ne vient pas dans cette démarche-là. Mais si le fait d'avoir une volonté commune et générale fait accélérer les choses, autant aller dans le commun et le général.
C'est la seule chose qui manque. C'est pour ça que le rabbi, les dernières années, le rabbi, et pas que le rabbi d'ailleurs, il n'arrêtait pas de parler de Mashiach. Et toujours le slogan, we want. C'est un peu quand même, we want, c'est un peu.
C'est revendicatif.
C'est très revendicatif. D'accord, ça me rappelle.
C'est
GT. Nous voulons Mashiach maintenant. Bah, c'est ça en fait.
Hein,
c'est la même chose. Nous voulons Mashiach maintenant. Tu vois, ils sont là. Ça fait 30 ans les mêmes trucs. Les cheminots, ils te lâchent pas. Laisse tomber, c'est fini. Non. Nous voulons Mashiach maintenant. David, il se compte pas, David.
Tu prends n'importe quelle
cause. Nous voulons.
Tu prends n'importe quelle cause d'un bon et tu rajoutes, t'es foutu, on est dans la rue. Voilà.
Ah, c'est...
Donc, à chaque fois, ils mettent ça. Ils changent le nom du président au nom de la cause et ils te disent, t'es foutu, on est dans la rue.
Vehi prinat, j'en vais de la page. 342. Vehi prinat, yitiat mitzrayim. Ça, c'est la dimension de la sortie d'Égypte. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est lorsque je décide de vouloir. Je décide de vouloir. De vouloir m'approcher d'Hachem. Je décide de vouloir me retenir de faire la vera.
Alors,
vouloir.
Tout ça, on peut le résumer par le mot ratson.
Ratson, exactement. Ratson. Tu as le ratson de faire ce qu'Hachem veut, tu vas te faire en Égypte. Bechol dor vador, bechol yom bayom. Chaque génération, chaque jour. Et plusieurs fois par jour. Keilu yatsa hayom mimitzrayim. Comme s'il était sorti aujourd'hui de l'Égypte. Velachen, c'est pour cela, je passe à la page suivante. Mais la reine, c'est pour cela, tiknou, les chamim ont instauré, parashat itziat mitzrayim, beshat kriat shema dafka. C'est la raison pour laquelle les chamim ont instauré la parashat de la sortie d'Égypte, ça veut dire la troisième partie du schéma, ani hachem elokecha ma charantite et ramiret mitzrayim, beshat kriat shema dafka, au moment du kriat shema. Parce qu'a priori, c'est étonnant. C'est vrai que c'est important de se rappeler la sortie d'Égypte. C'est important de se rappeler d'Amalek aussi. C'est important de se rappeler de ce que Dieu a fait à Myriam. C'est important de se rappeler beaucoup de choses. Pourquoi la sortie d'Égypte, on a dû la mettre avec le schéma? On lui a donné une place importante, très importante. On aurait dû laisser le schéma avec deux paragraphes. Schéma Israël, Ve'afta, Ve'aya, deux paragraphes, d'accord? Et la sortie d'Égypte, on aurait parlé, je sais pas, qu'on aurait fait filer une autre partie.
La sortie d'Égypte, elle nous a amené à...
Seulement en vérité, Dylan Morazaken dit, c'est pas un hasard. Pourquoi la sortie d'Égypte a été mêlée au schéma? Parce que c'est exactement le même concept. Le schéma et la sortie d'Égypte, c'est le même concept. C'est quoi le concept du schéma? Accepter avec ma volonté la souveraineté d'Hachem, que sa volonté, c'est lui qui décide. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est exactement la même chose. Accepter la volonté d'Hachem, accepter que si Hachem il a dit on doit sortir, on doit sortir. Donc je quitte ma volonté, je sors de mes limites pour aller vers la volonté d'Hachem. C'est exactement le même concept. C'est pour ça, Amalek, c'est autre chose. Tout le monde, c'est autre chose. Mais là, la sortie d'Égypte et le kriyat shema, c'est exactement, c'est kif, c'est le même concept. Bien que ce soit deux mitzvahs distinctes, lire le schéma c'est une mitzvah, se souvenir de la stratégie c'est une autre mitzvah. Lorsque vous lisez le schéma, vous accomplissez deux mitzvot. Les deux premières parties du schéma, vous faites accomplir une mitzvah. Troisième partie du schéma, par la stratégie, vous faites accomplir une autre mitzvah. Comme il dit ici, Av shei mitzvah vifne atzma, velo mitzvah kriat shema. Ça n'a rien à voir, ce sont deux mitzvahs qui n'ont rien à voir. Pourquoi on les a greffés ensemble, pourquoi on les a mis ensemble. Kedita bikmaru poskim. Et là, mipne sheim davar echad mamash. C'est parce que, ces deux choses sont deux concepts qui sont exactement les mêmes. Accepter, décider d'accepter la souveraineté d'Hachem. Je termine. Vechen, pareil. Mais sauf parashat yitziat mitzrayim. Si vous remarquez à la fin de la troisième partie du schéma, comment termine le schéma? Officiellement, on descend. Ani Hachem Elokechem. Je suis l'éternel, votre Dieu. Pas je suis l'éternel, le Dieu. Votre Dieu.
Ben oui.
C'est-à-dire, comment on a commencé le schéma?
Hachem
Eloke. On a commencé le schéma en disant, Hachem Eloke, nous.
Non.
L'éternel est notre Dieu. Donc, je me suis approprié. C'est ça le cadeau.
Il a répondu.
Comment je termine le schéma? J'accepte la souveraineté d'Hachem. Je sors de mon Égypte. Et Hachem, il dit, Ani Hachem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il est en train de te dire, je suis ton Dieu. D'accord? Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et toi aussi, tu déclares que Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu.
Il valide quelque part.
Bien sûr qu'il valide. Bien sûr qu'il valide. Ce que je veux dire par là, c'est que la sortie d'Égypte, on n'est pas là seulement pour se rappeler d'un événement qui s'est passé il y a 3300 ans. C'est ça le chidouche. La sortie d'Égypte se passe now, elle se passe maintenant, tous les jours. Les ma'an tiskor etiom tsetecha me'eret mitzrayim kol yeme chayecha. Traduction, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Alors, celui qui lit mal le texte, il va comprendre. C'est-à-dire que tous les jours de ma vie, je dois me souvenir qu'un jour, je suis sorti d'Égypte. Je vais compter. En 1, en 2, en 1000, en 2000, en 3000, en 3300, on compte. Tu dis non. Lorsque tu commences à te souvenir, c'est pas pour te souvenir qu'un jour ça s'est passé. C'est pour te souvenir que c'est en train de se passer maintenant. Que la sortie d'Égypte est un événement qui se passe maintenant. Donc, comme je disais, ça c'est exactement le concept de Mashiach. Le concept de Mashiach, c'est qu'Hachem, il demande qu'on demande le Mashiach. Comme il est écrit dans le Passouk, dans Osée, Passouk qui parle de Mashiach, il dit « Uvikshu et Hachem Elokehem, ve David Melokam » que les bnés Israël réclameront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. De là, on comprend qu'on doit demander Mashiach. Il y a des gens qui vont vous dire « Mashiach, on ne demande pas. »
On le demande dans la prière.
Oui, mais il y a des gens qui disent « Écoute, il y a des gens qui vont dire « Écoute, Mashiach, on ne demande pas. Nous, on se comporte comme il faut. Le jour où Dieu aura bien décidé que c'est le moment, il voudra bien, alors on sortira. C'est pas de problème.
Voilà. » C'est ça.
Moi, je fais mon travail, toi, tu fais ton travail, chacun fait sa partie, moi, je suis employé, toi, t'es le PDG, moi, je déciderai à ta place, je scande rien, je demande pas. On aurait pu penser comme ça.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. On aurait pu dire, écoute, je veux pas commencer à bousculer Dieu. Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Et ben, on te dit non. On te dit, Hachem, il attend que tu le montres, c'est important pour toi. Pourquoi tu veux que tu m'envoies ma chère si ça t'intéresse pas? Je veux pas t'envoyer un cadeau si ça t'intéresse pas. Mais tu dois t'acheter un cadeau pour quelqu'un, t'acheter un cadeau pour ton fils. Tu l'as acheté un cadeau, tu l'as acheté un beau cadeau, papier cadeau et tout. Et tu dis, ah, mon chéri, je t'ai amené un cadeau. Un cadeau?
Je peux
pas mettre
l'oseille.
Ouais, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais avec le cadeau? Tu le mets où le cadeau?
La poubelle.
Ou tu le rends au magasin, ou tu le gardes dans le placard. Tu dis, bon, quand tu voudras le cadeau, tu reviens me voir. Ce qu'il dit Hachem. Hachem, il dit, il faut demander. Ou Vikshu, il faut demander. Nous aussi, tu veux sortir d'Égypte, il faut demander. Donc, qu'est-ce qu'on va souhaiter, Bezrat Hachem? Kadosh Baruch Hu, il fasse que on demande. Même, vous savez que même Rosh Hashanah, c'est ça Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est on demande Hachem
de venir, de faire la tefila. Oui. Ça, c'est une demande pas en filigrane, c'est une demande.
Il y a beaucoup de routine. Bon. C'est plus qu'une demande. Comme a dit Michael, c'est une quasi revendication. C'est une revendication.
On va faire une banderole, Michael.
Hein? On demande Mashiach, on exige Mashiach. Ça veut dire qu'on doit. We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach.
Nous, la semaine dernière, avec Marcel, on disait on veut du steak. On avait du steak.
Voilà. Nous, on veut pas du steak, on veut Mashiach. Allez, à méditer. Mais on t'achète.
Eux, on en rend
deux.
Bon, on a fait un peu avancer le public.
Zach.